Bonsoir. L'Assemblée nationale et les Sénats ont entamé mardi 4 février leur session extraordinaire sur demande du président de la République pour proposer un plan de sortie des crises sécuritaires qui sévit dans la partie est de la RDC. À l'ouverture de cette session, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a indiqué que le Parlement devra présenter et proposer des stratégies pour une paix durable dans l'est du pays. Il a invité les parlementaires a proposé avec intelligence et sagesse des recommandations appropriées pour un plan de sortie des crises dans le volet politique et diplomatique, tout en évitant de retomber dans les erreurs du passé. Signalons cependant que le sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC est prévu samedi 8 février à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, et sera axé sur le conflit en RDC. Que peut-on attendre du sommet extraordinaire conjoint EAC-SADC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 6 février 2025. Participe au débat Jean-Baptiste Omundo Kasekwa, qui est premier vice-président du parti politique Engagement citoyen pour le développement, SID en sigle, parti membre de la coalition Lamouka et notable du Nord Kivu, Jean-Baptiste Kasekwa. Bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs et toute ma compassion aux populations de Goma et de toute la province du Nord Kivu, du Sud Kivu.
Maître Achille Kapanga, avocat, analyste indépendant et expert dans les domaines de la sécurité. Maître Achille, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, merci de me joindre. Je salue tous les auditeurs de la radio Capi, je salue les co-débatteurs. Nous pensons que le débat va se dérouler dans les normes.
Merci Maître Achille Kiapanga. Il vient de nous rejoindre dans ce studio, Corneille Moulumba. Il est l'un des cofondateurs du parti politique UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Corneille Moulumba, bonsoir.
Bonsoir Maman Kelly, ça fait longtemps.
Oui, ça fait longtemps. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce studio de Radio Okapi. À travers toute la République, vous êtes des milliers à nous suivre sous la fréquence FM. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre ce magazine en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, l'Assemblée nationale et le Sénat ont entamé mardi 4 février leur session extraordinaire sur demande du président de la République pour proposer un plan de sortie des crises sécuritaires qui se vit dans la partie est de la RDC. D'après le président de l'Assemblée nationale, à l'issue de cette session, le Parlement devra monter des stratégies pour une paix durable dans l'est de la RDC. Vital Kamerhe invite donc les parlementaires au sacrifice pour garantir la victoire de la RDC. Michel Kifinda pour le reportage.
À la chambre basse du Parlement, le président Vital Kamerhe a, dans son discours d'ouverture, invité les élus du peuple à proposer avec intelligence et sagesse des recommandations appropriées pour un plan de sortie des crises, tout en évitant de retomber dans les erreurs du passé. Vital Kamerhe.
Nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons. Parce que tous sont prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoquaient, les Mamadundala, les Chirimwami, les Bahouma, pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique et politique.
Pour sa part, le président du Sénat dénonce la passivité de la communauté internationale. Jean-Michel Samalokonde.
Depuis son ancestrale indépendance, notre pays est la cible d'un complot international institutionnel. Nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorge notre sol et sous-sol.
À ce sujet, Samalukonde annonce la mise sur pied d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat pour réfléchir sur les stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise.
Merci Michel Kifinda pour ce reportage. Jean-Baptiste Somundo Kasekwa, je rappelle que vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SID en sigle. C'est un parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes également notable du Nord Kivu. Vous venez de suivre les déclarations du président de l'Assemblée nationale qui a réuni les députés pour proposer un plan de sortie des crises sécuritaires qui sévit dans la partie est de la RDC. Et cette session extraordinaire a été organisée sur demande du président de la République. Selon vous, vous êtes un ancien parlementaire, hein, je rappelle. Alors selon vous, le Parlement congolais peut-il jouer un rôle efficace dans la recherche d'une solution à la crise?
Oh, la crise a atteint des dimensions insupportables. L'hécatombe vécue dans la ville de Goma, bilan provisoire d'au moins 3000 morts, l'économie de la ville est systématiquement détruite. Jusqu'à ce jour, c'est plus de 1500 voitures appartenant aux services publics et aux particuliers qui continuent d'être pillées par les nouveaux occupants, des blessés sans nombre. Bref, la situation mérite des solutions urgentes. La guerre doit être arrêtée. Non seulement les morts doivent être arrêtés à Goma, mais nous devons tout mettre en œuvre pour éviter que ce qui vient d'arriver à Goma ne se reproduise à Bukavu, ne se reproduise à Butembo, à Beni, à Bunia, à Kindu. Et pour cela, toutes les intelligences sont sollicitées. Alors, est-ce que l'Assemblée, le Sénat sont en mesure de proposer une alternative salutaire? De mon expérience au cours du mandat 2018-2023, le Parlement congolais a démissionné. C'est une coquille vide. Si le Parlement était sérieux, il y a longtemps que le plan de sortie des crises de l'état de siège aurait empêché qu'on n'en arrive pas à ce stade. Et qu'aujourd'hui, ces députés et sénateurs se réunissent, c'est simplement parce que M. Félix leur demande de siéger, de lui proposer des recommandations. En fait, nous sommes dans un scénario semblable à la table ronde autour de l'état de siège, où la présidente de la République avait déjà formulé ses propres recommandations, et la présidence voulait simplement avoir la couverture de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus un secret. C'est que ce qui nous est arrivé à Goma a sonné le glas, n'est-ce pas, de tous les discours de M. Félix. Et il est obligé, avec le concours de toutes les institutions, de changer de fusil d'épaule, c'est-à-dire aller vers le chemin du dialogue. Et pour ça,
il voudrait
présenter, dire, le Parlement m'a recommandé de le faire, l'Église catholique me recommande de le faire, la SADC me recommande, le sommet qui va venir, l'EAC, et il va donc dire, mes chers compatriotes, pour éviter les baies de sang, nous sommes obligés d'avaler la pilule amère de la négociation. Malheureusement, après qu'on ait enregistré tant de morts, malheureusement, à cause de beaucoup de pratiques de mégestion, de mafia dans la gestion du système de défense, qui n'ont pas permis que nous puissions reconstituer des rapports de force qui nous permettraient de défendre l'intégrité territoriale et d'éviter toutes ces morts que nous déplorons à ces jours.
Alors, la situation, le volet politique et diplomatique, selon vous, Mwindo Kasekwa, pensez-vous que ça serait la solution à la crise que nous connaissons aujourd'hui, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC? Est-ce que ça va arrêter les armes?
Alors, madame, aujourd'hui, la voie diplomatique, politique et diplomatique reste la seule alternative. Il n'y en a pas d'autre. Ce qui est arrivé à Goma, qui est inimable,
démontre que Paul Kagame est prêt à rééditer la triste expérience de Tel Afdel, c'est-à-dire placer à la tête de la RDC un Laurent Désiré Kabila bis, peu importe les fleuves de sang, peu importe le nombre de morts, Laurent Désiré Kabila a été placé ici sur un prix de la destruction des cas de réfugiés, de nombreux réfugiés qui ont été tués à Tingitingi, à Kisangani et ailleurs, et disais-je, l'expérience de Goma démontre que la folie de Kagame aujourd'hui est telle qu'il est prêt à rééditer la même expérience. Et donc, face à cette, pour tirer des leçons de Goma, la voie diplomatique reste la seule voie. Et malheureusement, nous y partons perdants. C'est ce que l'on appelle les négociations. Ce que nous aurons là, les sommets de Dar es Salaam, toutes les voies, c'est ce que l'on appelle les négociations de chantage. C'est-à-dire, on va imposer à M. Félix un cahier de charges, à lui disant, à prendre ou à laisser. Si tu n'acceptes pas, eh bien, nous sommes aux portes de Kavumu, nous sommes aux portes de Boutembo, nous pouvons t'humilier à tout moment. Pourquoi on en arrive là? Bien entendu, il y a beaucoup d'erreurs qui relèvent de nos pratiques. Vous suivez tout ce qui se passe à la maison militaire du chef de l'État, où les marchés autour d'achat d'armes et autres sont devenus des mafias. La mafia dans le recrutement des militaires, on dit qu'on débloque de moyens pour former 40 000, et curieusement, on n'en a pas formé autant.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez, M. Kasekwa?
Mais j'ai été à l'Assemblée nationale. Nous avons évalué notre politique de défense dans la partie est de la RDC, Nord Kivu et Ituri. Le ministre de la Défense, l'ancien ministre Kabanda, a produit un rapport sans complaisance. Le Parlement, l'Assemblée nationale, a produit un rapport. Malheureusement, toutes ces recommandations sont restées lettres mortes. Et nous en payons aujourd'hui le prix.
Corneille Moulumba, vous êtes parmi les cofondateurs de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous analysez ou quelle est votre lecture de l'organisation de cette session extraordinaire pour pouvoir proposer un plan de sortie des crises sécuritaires?
Madame Kelly, je pense qu'il y a une précision qui est absolument portée. Je ne me sens aucunement membre de l'Union sacrée. Je ne soutiens pas l'Union sacrée.
Vous n'êtes plus dans l'Union sacrée, c'est ça?
Je n'ai jamais été dans l'Union sacrée. Et je n'ai jamais soutenu l'Union sacrée. Je suis membre cofondateur de l'UDPS.
De l'UDPS, oui.
Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Mais lorsqu'on se réunit, on se réunit autour d'un programme, de ce qu'on va faire ensemble pour le bien de notre pays. Si on pose la question... L'Union sacrée est réunie autour de quoi? Il n'y a rien. Je n'entre pas dans ce débat-là, mais pour moi, l'Union sacrée, c'est du sable, il n'y a rien.
Alors, on vous présente comme parmi les cofondateurs de l'UDPS.
Ça, c'est l'histoire.
Oui, allez-y.
Mais, madame, d'abord, je ne sais pas pourquoi on parle de crise à l'Est. Ce n'est pas la crise, c'est la guerre. C'est différent. Ce n'est pas une crise qu'on résout comme ça, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Alors, dès lors que nous sommes en guerre, moi, je ne comprends pas ces histoires de voilà, je vous demande de vous réunir à l'Assemblée nationale pour que vous puissiez me proposer des idées. Mais non, nous sommes en guerre. Et lorsqu'il y a une guerre, ce n'est pas l'Assemblée nationale que l'on convoque séparément et le Sénat à part. Non, c'est le Congrès que l'on convoque pour constater effectivement la situation et nous déclarer en guerre et organiser le pays dans ce sens-là. Pour la guerre, parce que c'est ça. On peut pas
tuer. Vous estimez que la voie politique et diplomatique n'est pas la bonne pour mettre fin à cette guerre?
Madame, ça ne peut rien apporter, absolument rien. Pour quelle raison? Pour une raison simple. Le Rwanda, madame, c'est un petit pays minuscule qui ne peut aucunement faire face à la RDC. Donc ce qui est important, c'est ce qui est derrière le Rwanda. Qu'est-ce qui est derrière le Rwanda? C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est de grandes puissances. Donc, s'il y a à poser le problème, c'est à ce niveau-là. Le Rwanda n'a pas le moyen de faire la guerre. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, je pense, il y a quelque chose qui manque chez nous les Congolais, c'est la notion de redevabilité et de responsabilité. Ça fait plus de 2 ans et demi pratiquement que Bounaga est tombé, n'est-ce pas? Et Goma tombe maintenant. En 2 ans et demi, qu'est-ce que nous avons fait pour former des commandos, pour former des parachutistes, pour acheter les armes, pour recruter des jeunes et tout? Si on n'a pas fait tout ça, alors ce qui se passe aujourd'hui, on doit se poser la question. À quel niveau se situe la responsabilité? Qui est-ce qui porte la responsabilité de tous ces compatriotes qu'on a massacrés sur ce carnage à Goma? Parce que on a vu venir, madame, Roubaix, on dit que la RDC détient pratiquement 60% des réserves mondiales de coltan. De ces 60% au niveau mondial, 50% au moins c'est la région de Roubaix. Une région comme celle-là, on a fait quoi pour la sécuriser? Ça c'est un. Deux. Depuis que Roubaix est tombé, on a fait quoi pour récupérer? N'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut que nous puissions insister sur la notion de responsabilité. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour nous défendre. Alors ce qui vient de se passer à Goma, c'est très 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 grave. C'est la guerre qui a été portée sur notre territoire. Et au moment où nous parlons, Goma est géré par le Rwanda. Est-ce qu'on réalise que c'est comme si, comme quelqu'un a dit, la France est envahie par Monaco? C'est un peu ça.
Alors, vous n'êtes pas pour la voie politique et diplomatique. Vous estimez qu'il faut faire la guerre, c'est ça. Mais est-ce que le président n'a pas choisi cette voie politique et diplomatique pour épargner des vies?
Comme on a épargné à Goma, n'est-ce pas? À Goma, on a épargné des vies. En contrepartie de quoi? On a épargné des vies à Goma. Et c'est comme ça chaque année, chaque jour, quand on allume la radio Capi ou d'autres, c'est toujours, on a tué autant, on a tué ici, on a tué ici, on a tué ici. Jusqu'à quand on va faire ça? Madame, je voudrais qu'on ait conscience que le président de la République a avec lui une majorité de près de 90% au Parlement. 90%. Il a une armée de plus ou moins 150 000 personnes. Il a, des réserves minières parmi les plus recherchées du monde. Il a tout un potentiel de recrutement de 150 millions de Congolais, plus parmi lesquels 70% des jeunes. Qu'a-t-on fait pour recruter? La RDC devait avoir une armée de au moins 2-3 millions de soldats. Qu'a-t-on fait pour recruter? Parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas élever des chèvres et des poules dans votre enclos et ne pas les protéger contre les loups et autres carnivores. C'est pas possible.
Si on vous comprend bien, Corné Moulumba, la question de l'Est a été mal gérée par le gouvernement.
La question a été très très mal gérée. Très très mal gérée. Et puis, on n'a rien fait pour mobiliser la population. La population était discrète. Vous avez constaté que les jeunes ont marché. Quelques milliers de jeunes, peut-être même pas, ont marché ici. Et dès lors qu'ils ont marché, vous avez entendu dans les capitales étrangères, en Europe, là, en Occident, dans les parlements et autres, les gens ont pris position. Ça a bougé. En d'autres termes, nous sommes à peu près 15 millions de Congolais à Kinshasa. Si 10% de la population kinoise descend dans la rue, ça va bouger encore davantage. Alors, au lieu de sensibiliser les Congolais pour qu'ils bougent, non, on les distrait.
Qu'on a vu là, est-ce que le gouvernement a pris la décision de suspendre toutes les marches?
Non, c'est pas ça. On encadre les marches. On encadre. On peut dire qu'il y a une défaillance peut-être du côté de la police pour encadrer les marches. Mais s'exprimer, montrer, voir 1 500 000 Congolais dans la rue en train de marcher pour ce qui se passe à l'Est, tout le monde a peur, le monde entier pourrait avoir peur. Parce que le Congolais, la population du Congo, madame, elle est l'équivalent, si pas plus, que toutes les populations des pays voisins mis ensemble. idem pour la superficie. Donc nous sommes très très nombreux pour être capables de faire une démonstration de force qui peut être entendue. Mais on a fait quoi? Qu'est-ce que le ministre Mouyaya a dit quand l'histoire commence à tourner à Goma? Il a demandé à la population de s'enfermer dans les maisons. Ailleurs, on dit aux populations, jeunes, enfants, vieux, femmes, hommes, levez-vous avec ce que vous avez, des pierres, des couteaux, n'importe quoi, défendez-vous.
Mais c'est pour éviter que la population se fasse tuer.
C'est ça.
Voilà.
Madame. On a tué.
La population est sans armes. Vous n'allez pas demander à la population de sortir et aller se mettre entre les FRDC et
vous savez ce qu'on appelle la résistance? C'est ça la résistance. Si vous ne résistez pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils se baladent comme chez eux, ils peuvent prendre des bières tranquillement, comme chez eux, comme au paradis. La population se défend. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, n'allez pas manifester. On interdit toutes les manifestations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut interdire les manifestations? Il faut vraiment ne pas être conscient de ce que ça veut dire un combat politique pour dire ça. Est-ce qu'on peut interdire les manifestations au Congrès aujourd'hui, dire que ne manifestez pas? C'est grave.
Merci Corneille Moulumba, vous êtes très très nombreux à nous suivre en direct sur la page Facebook de Radio Okapi. Merci à Jurens Bokoso qui nous suit depuis la ville de Goma. Lucien Tassi, vous êtes à Kindu dans la province du Maniema. Christian Pouy, vous êtes à Mokambo, je pense. Hein. Vous êtes très nombreux. Alain Melchi, nos militaires, ils demandent, nos militaires Wazalendo qui étaient en route vers Kigali, ils sont déjà à quel niveau? Combien de kilomètres leur reste-t-il pour arriver là-bas. Merci à Eric. Bienvenue Londonga qui nous suit depuis l'Ouganda. Achille Kapanga, vous êtes avocat et analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. L'Assemblée nationale propose, le chef de l'État a demandé aux députés, aux parlementaires de nous proposer des stratégies pour une paix durable dans l'Est de la RDC, un plan de sortie des crises sécuritaires qui se vit dans la partie Est de la RDC. Et ce plan des crises doit être dans le volet politique et diplomatique. Votre point de vue?
Merci beaucoup, madame. Je suis d'abord en train de saluer tous les auditeurs qui nous suivent à l'instant. Je salue également tous les autres studios. Monsieur Kassekwa, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire ou bien n'est pas important de commencer à centraliser. Non. Et il faut qu'on dise les choses clairement et ouvertement. On a toujours dit que quand des éléphants se battent, ce sont les faits qui en sont victimes. Le peuple du Nord Kivu, c'est un peuple pacifique. Il y a eu beaucoup de morts à Goma, des morts innocentes. Nous devons dire que ces gens qui sont morts sont des innocents, ils ne connaissent rien de la politique. Il faut qu'on épargne la population des tueries ou bien des morts qui n'ont pas de sens. Les leçons doivent être tirées des événements que nous avons pu vivre. Moi, je pense que ça fait deux fois que le chef de l'État a révoqué ses envoyés spéciaux. Je peux commencer par Bisselele, celui qui était chargé de la question de Luanda. Mais c'est comme si c'était des non-événements. Le chef de l'État qui doit révoquer ses envoyés spéciaux, mais la République n'attient pas compte, on ne sait même pas dire quoi au peuple, le peuple est presque dans le désarroi. Et de deux, si les élites peuvent proposer un plan aujourd'hui, mais quel plan ils peuvent proposer alors que tout le jour ils sont là, la situation de s'empirer, ils sont de voir comment ça s'empire, et là, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut d'abord écouter beaucoup plus ce que les évêques ont proposé au chef de l'État, pour qu'on comprenne la situation, qu'on mette la situation sur la table. Aujourd'hui, ce n'est plus question de dire tel, non. Qu'on se dise clairement les vérités, puisque l'allure que cette guerre a prise, elle est dangereuse. Nous sommes en train de revivre 1997 avec Kabila, le père, si les gens ne font pas attention. Puisque l'allure que ces choses ont prises, elle semble être trop dangereuse, puisque nous suivons que la communauté internationale a maintenant son plan, qu'elle veut faire exécuter à travers Kagame, Macron. Si nous aussi, nous ne voulons pas jouer la carte qui va correspondre à la solution à ces problèmes, nous serons seulement en train de constater que nos villes sont en train de tomber les unes après les autres. Donc, les députés ne doivent pas continuer à distraire le chef de l'État, non. Et moi, je pense que je n'ai pas vu un député dire que non, moi, sur mes émoluments, je ne parle que 50% qui doivent aller renforcer les familles militaires qui sont fraudes. Je n'ai pas entendu ça. Alors, si les déclarations politiques pouvaient mettre fin à la guerre, je pense que la guerre de l'RDC aurait déjà pris fin. Parce qu'on a déjà cité des déclarations politiques de toutes sortes, de toutes les couleurs. Madame, toutes ces déclarations n'ont pas réussi à mettre fin à la situation que nous sommes en train de traverser aujourd'hui.
Mais là, il ne voilà s'agit, pas de, moi, déclarations, il s'agit pas de déclarations politiques. Ce sont des propositions que vont faire les parlementaires au président de la République pour mettre fin, mettre fin à cette guerre, à cette crise. Maître Achille ? Maître Achille, je pense qu'on a un souci.
Madame.
Oui, je disais, il ne s'agit pas des déclarations politiques. Là, ce sont des
madame.
Vous me suivez?
Oui, madame, je vous suis.
Oui, je disais, là, il ne s'agit pas des déclarations politiques.
Je vous suis, madame. Vous me captez aussi?
Oui.
Oui, madame, je vous capte, madame. Vous me captez aussi?
Oui, bien sûr. Je disais que... Allô? Maître Achille?
Voilà. Vous me captez, madame?
Je vous entends très, très bien.
Connexion.
Bon, on essaie de vous rappeler. La réalisation va essayer de vous rappeler. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Merci à Grace Mufungizi qui nous suit depuis la ville de Goma. Elvis Chimanga qui est au sud Kivu dit ceci. Les deux chambres sont en train de faire leur diplomatie au moment où les rebelles sont en train de faire des discours. Merci à Ali Baratou Wango qui nous suit depuis Goma jusqu'à quand le gouvernement proposerait un plan de sortie des crises. Voilà, vous êtes très très nombreux à nous suivre sur X aussi, le compte X de Radio Capi. Maître Achille, vous êtes là?
Oui, madame, je suis là.
Alors, je disais, là, il ne s'agit pas des déclarations politiques. Ce sont des propositions que les parlementaires vont faire au président de la République pour essayer de mettre fin à cette guerre.
Madame, moi, je pense que les théories, on en a eu beaucoup. Les propositions, on a proposé l'état de siège qui a fait plus de 3 ans. Vous connaissez les résultats. Les Bounagan a été pris, les villes tombaient les unes après les autres. Il n'y a pas eu de solution à tous ces problèmes-là.
Votre ligne pose un problème. Voilà, on va essayer de vous rappeler. Merci à Aladin Mupenda qui nous suit depuis Kiavumu dans la province du sud Kivu. Est-ce qu'on peut ouvrir le standard pour prendre aussi les auditeurs qui appellent en ligne, qui veulent aussi s'exprimer? On va se rendre à Kisangani dans la province de la Tchopo pour écouter l'avis de cet auditeur.
Benjamin Melima Melingo, je vous appelle à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo. Rien de spécial dans cette rencontre. Notre salut ne viendra pas de ces conglomérats des hypocrites qui se liguent contre nous. Nous devons nous libérer et comprendre que notre pays doit avoir une armée à la hauteur de sa taille et aux défis sécuritaires qui sont les nôtres. La RDC regorge à son sein des richesses incommensurables qui attirent des convoitises, des prédateurs. Et nous devons avoir des gardiens, c'est-à-dire des militaires bien équipés et bien pris en charge par les dirigeants. Et aussi nouer des partenariats stratégiques avec ceux qui veulent nous accompagner dans la lutte afin de défendre la mère patrie. En outre, les dirigeants doivent rechercher la cohésion nationale et assurer la répartition équitable des richesses du pays pour éviter des frustrations. Gage de toute stabilité en interne. Je vous en prie.
Alors, cet auditeur aborde déjà la deuxième partie de notre émission sur cette rencontre qui aura lieu, qui est prévue pour le 8 février prochain à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Un sommet extraordinaire conjoint EAC-SADC qui parlera du conflit ou de la situation sécuritaire en RDC. Alors, il n'attend rien. de ce sommet extraordinaire, ils pensent que nous devons plutôt bien équiper notre armée. Monsieur Kasekwa.
Alors, ce sommet présente quand même quelques particularités. C'est pour la première fois que les deux organisations sous-régionales se réunissent conjointement à sommet autour de la guerre dans notre pays. Ce serait également depuis beaucoup de temps que Félix et Paul Kagame devraient être présents. Peut-être Kagame a dit qu'il sera physiquement là. Félix va-t-il participer par visioconférence? Mais néanmoins, ce serait quand même une première que les deux soient là. Alors, mais au-delà de ça, l'auditeur n'a pas tort. Personnellement, des attentes de ce sommet, je m'attends à ce que les sommets demandent aux acteurs ou partis de revenir au cessez-le-feu. Ensuite, on va certainement imposer au moins fort sur le terrain d'accepter finalement les schémas de dialogue direct M23 Kinshasa. Il ne faut plus se voiler la face, c'est vers là que l'on va. Vous avez suivi, il a été demandé à préparation de ce sommet-là que Uhuru fasse la synthèse du processus de Nairobi, ce qu'il a déjà déposé, et dans cette synthèse, il propose effectivement une solution à deux niveaux. Le niveau du processus de Luanda, c'est-à-dire régler les questions entre la RDC et le Rwanda, ensuite ce qu'il appelle la dimension du dialogue intra-congolais. Donc, vous vous rappelez de ce que l'Union africaine a dit, que Kinshasa devait régler la question avec son opposition armée. Et donc, de ce sommet-là, un, c'est retour peut-être au cessez-le-feu du 4 août, où on va demander à Kinshasa et Kigali de signer un nouveau cessez-le-feu, mais malheureusement, ce cessez-le-feu ne serve qu'à profiter à Kigali pour se préparer davantage. Et troisième attente, de mon point de vue, de ce sommet, c'est pour essayer de trouver un arrangement au malentendu entre Ramaphosa et Kagame, qui étaient sur le point d'avenir aux armes. Les militaires sud-africains sont bloqués à Mubambiro, à Goma. Mais ce sommet n'est pas convoqué pour que on s'attelle sur les plus de 3000 morts de Goma. Ce sommet n'est pas convoqué pour que l'on s'attelle sur la menace qui pèse sur Bukavu, sur Butembo. Non, ce sommet-là va régler...
Mais comment vous savez que ces questions ne seront pas abordées?
Madame, Bounagana est tombé le 13 juin. Il y a eu un sommet délayé le 20 juin. On n'a pas parlé de Bounagana. Bien au contraire, le 6 juillet 2022, il y a eu sommet de Luanda, on a signé une feuille de route, on n'a pas parlé de Bounagana. Le 23 novembre 2022, il y a eu sommet à Luanda, après le massacre de plus de 270 compatriotes à Kichiché. Le sommet n'a pas parlé de ces massacres-là. Bref, ces sommets ne sont pas là pour de la pitié. Les sommets constatent les rapports de force sur le terrain. Ces sommets démontrent, constatent aujourd'hui que Kagame n'a pas eu peur de franchir la ligne rouge et de tuer des milliers de Congolais à Goma. Les sommets constatent que, contrairement à la promesse de réunir les deux chambres du Congrès à la moindre escarmouche pour déclarer la guerre, contrairement aux promesses que Kinshasa était capable d'attaquer Kigali même sans intervenir sur terre, Kinshasa n'est pas capable de se défendre. Et bref, on va nous imposer la loi du plus fort, la loi à diplomatie. C'est que il arrive trop souvent au plus fort de gagner sans avoir raison. C'est ce que nous risquons de subir à Dar es Salaam ce 8 février.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle Dubundu dans la province de la Tchopo.
C'est Franck Bilal depuis le territoire de Bunda, la province de la Tchopo. Le Parlement congolais, dans ce moment précis, ne sert à rien, car il est considéré comme une chambre de résonance pouvant rien proposer de plan stratégique pour la sortie de cette crise. À mon avis, la voie que prône actuellement la CENCO et le CC est salutaire, car nous ne sommes pas sans ignorer que l'armée a échoué sur tous ses plans. Cependant, après la table ronde, il est évidemment que les stratégies et l'administration militaire congolaise puissent être réévaluées du fond au comble et dotées des moyens efficaces et nécessaires pour faire face à toutes les tentatives de l'ennemi. Ici, il est question que l'armée congolaise adopte une stratégie prospective à son sein et mette tous les commandants traîtres hors du circuit de l'armée.
Alors, Corneille Moulumba, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet EAC, SADC? La RDC sera au centre, la crise ou la guerre, hein, le conflit en RDC sera au centre des discussions.
Madame Kelly, il n'y a rien à attendre de ce sommet. D'abord, pour plusieurs raisons. La première, que d'abord, un, la RDC est entrée dans l'EAC sans même qu'il y ait un débat au Parlement. Donc, sans que les représentants du peuple congolais en aient discuté. Il y a eu une ratification plusieurs mois après, et ces ratifications, madame, ont eu lieu. Il y a eu 8 lois de ratification. On a adopté ça globalement. Est-ce pensable faire entrer la RDC dans l'EAC dans ces conditions-là? Donc, d'abord, l'EAC, c'est quelque chose où nous devions nous retirer le plus tôt possible. Donc, s'il y avait une action à mener, pour moi, la première chose, c'est que nous nous retirions de l'EAC. Ça, c'est une chose. La deuxième, le M23, il a des avions de chasse, il a des bombes atomiques, ou il a des chars, il a quoi? Nous devons nous interroger. Comment se fait-il qu'une armée de 150 000 personnes ne soit pas en mesure d'agir? Donc, moi, je pense que, logiquement, nous devions remballer tout ce monde, tous ceux qui sont là. On n'a pas besoin d'eux. On a besoin, un, que nous puissions, nous avons des gisements miniers dans ce pays, que nous puissions négocier avec des pays qui fabriquent les armes et qui maîtrisent la technologie pour nous approvisionner en armement le plus moderne. Nous avons des soldats. Les M23 sont combien? 100 000? 200 000? 300 000? Si ce n'est pas le cas, madame, nous avons de quoi faire face. Donc.
Mais là, il faut trouver une solution rapidement.
Mais c'est quoi la solution rapidement? Ça fait 30 ans que ça dure. C'est quoi rapidement? Donc, la seule solution que nous avons besoin, c'est que nous avons besoin d'une solution définitive.
Et durable.
Pour durable. Pour qu'aucun pays n'ose jouer avec la RDC. Nous sommes une puissance, en réalité, si on est conscient de ce que nous sommes. Quel est ce pays qui n'a pas besoin de
ça? Ça, c'est peut-être à long terme, mais à court terme, il y a ce sommet. Est-ce que ça pourrait pas être une solution à cette...
Non, pour moi, le
président... Ça pourrait pas apporter des solutions mais, à
il y a une anomalie. Madame, il y a déjà une anomalie. C'est à ce sommet. On parle de la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Mais officiellement, le président Kagame n'a pas de troupes au Congo. On parle de M23. Donc voilà que du coup, on va traiter officiellement avec quelqu'un qui n'a pas de troupes au Congo.
C'est lui qui reconnaît n'avoir pas de troupes au Congo, mais il y a eu des rapports où le Rwanda a été cité, hein,
oui,
comme étant
alors,
derrière le M23, comme appui du M23.
C'est exact. Vous vous retrouvez et dites, moi j'ai pas de troupes au Congo. C'est le M23 qui se bat. Et on répète le M23 appuyé par le Rwanda. C'est ça le discours des Congolais. Le M23 appuyé par le Rwanda. Donc, en réalité, et puis, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe sur notre terre à nous. Ce n'est pas au Rwanda. C'est sur notre sol. Donc, dans ces conditions, nous avons un premier devoir patriotique, c'est de libérer notre pays. Ça, c'est un devoir que personne, tout le monde ne peut que nous reconnaître. De ramener tous ces réfugiés qui vivent dans des camps dans leur foyer, et c'est ça que nous devons faire. Et nos minerais doivent nous servir à nous équiper pour cela. Moi, j'aurais bien voulu entendre le chef de l'État s'adressant aux populations de notre pays et dire que j'ai besoin que chaque province me donne 10 000 jeunes pour l'armée et qu'on va faire cela pendant 2 ans ou 3 ans. Ça nous ferait 260 000 soldats par an. Et avec l'équipement que nous avons, nous allons créer les conditions de nous faire respecter. On a besoin de nous faire respecter. Et nous avons le moyen de nous faire respecter. Alors le problème se pose au niveau du leadership. Moi, je pense, madame, que ce que nous devrions faire, nous les Congolais, c'est de donner un ultimatum au chef de l'État et dire, vous avez 3 mois pour terminer la situation à l'Est là-bas. Si vous n'êtes pas capable de terminer cette situation, alors c'est que vous n'êtes pas à votre place. Parce que nous ne pouvons pas supporter d'entendre le contenu des Congolais tous les jours. Parce que si tout pouvoir est là pour protéger, pour le bien-être de la population. Alors si vous ne pouvez pas nous sécuriser, si vous, alors ça sert à quoi?
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Bonsoir, la radio Capi, la radio de la paix. Je suis Jissé Kalabia, depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. Nous n'attendons rien de nos parlementaires et sénateurs congolais, car chacun d'entre eux s'occupe de ses intérêts privés. Certes, vu la façon dont les terroristes du M23 gagnent des espaces sur les territoires nationaux, ce sommet extraordinaire prévu à Dar es Salaam ne peut jamais produire des résultats escomptés parce que depuis la 2022 jusqu'à nos jours, nous voyons des sommets sans résultats positifs.
Maître Achille, vous êtes en ligne?
Oui, madame, je vous suis.
Alors, cet auditeur n'attend rien de ce sommet extraordinaire et assez... Et à SADC, hein, qui est prévu pour le 8 février à Dar es Salaam, en Tanzanie. Vous, personnellement, est-ce que ce sommet peut arriver à aider les deux pays à trouver des solutions pour mettre fin à cette guerre?
Au fait, moi, je pense que les trucs, comprendre que les États africains n'ont jamais été indépendants. Les sommets que sont évoqués là, il y a des mains occidentales qui vont téléguider l'histoire là-bas. On peut penser que ce sont les Africains qui vont céder, mais vous verrez que ceux qui vont décider, ceux qui vont donner les injonctions sont ailleurs, ceux qui dirigent le monde. La grande question, je suis en train de me dire que y aller c'est bon, pour peut-être voir ce qui va se passer, montrer notre bonne foi, qu'on comprenne un peu ce que les gens la veulent. Alors, si notre chef de l'État a un agenda, ou bien a des arguments, qu'il va amener là pour défendre la cause de notre pays, c'est bon, mais nous l'avons toujours suivi. À la tribune des Nations Unies, il a déjà parlé, partout il a toujours parlé, il a même déjà cité Kagame à plusieurs reprises, mais ça n'a pas amené la solution à cette question-là. Est-ce que cette dernière occasion qui sera la toute dernière ou bien celle qui va amener la paix réellement, avec les tensions qui sont déjà vives comme ça? Quels sont les partis qui vont arbitrer ou bien qui vont diriger ce sommet-là? Est-ce que ces partis-là sont prêtes à accompagner la RDC ou bien sont des complices? Parce que vous pouvez penser que vous allez chez les amis pour donner des solutions alors qu'eux aussi sont complices. Là, ça ne va toujours pas aller. Voilà pourquoi, moi, je pense que ce qui est important, c'est quoi? C'est d'abord que nous puissions nous-mêmes dire Congolais. Nanga, il se dit Congolais, comme on le connaît ici. Tout le monde là qui se dit Congolais. Si vraiment on peut se parler à Congolais et mettre Kagame à côté, n'y a-t-il pas moyen de trouver des solutions? Parce que ce qui pèse dans cette histoire, c'est qu'il y a des étrangers.
Décidément, la ligne de Maître Achille pose problème. Nous sommes dans la partie des conclusions. Jean-Baptiste Omindo, quelles sont les conditions nécessaires pour une paix durable et la stabilité dans l'est de la RDC?
Alors, depuis mars 2024, les CID par le canal de son président, Martin Fayoulou, a présenté son plan de sortie de crise. Malheureusement, les cas Félix et Ligno Sucré se sont caractérisés par l'arrogance, par un entêtement sans raison, et doivent payer le prix. Le plan de sortie de crise porté par le président Martin Fayoulou consistait effectivement à inviter les pères de l'Église à réunir toutes les parties prenantes autour d'une table ronde sous le thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Parce que nous estimons que dans la désunion telle qu'elle se présente aujourd'hui, depuis les hold-up électoraux de 2019, les simulacres électoraux de 2023, un royaume divisé ne peut pas survivre. Et nous estimions que donc, par se disant la vérité droit dans les yeux, en se réconciliant, rebâtissant la cohésion nationale, nous pouvons défendre l'intégrité territoriale. Des deux, nous estimons qu'au stade actuel, nous devons tout mettre en œuvre derrière les pères de l'Église et ses cinq coups pour qu'une dynamique citoyenne se mobilise. Parce qu'il ne faudrait pas que Félix Kagame se donne les kilos d'aller signer à nouveau un deal. Vous savez, Nanga et Félix se sont dit en janvier 2019 qu'ils ont signé un deal pour éviter un bain de sang. Malheureusement, ils ont évité un bain de sang pour produire un fleuve de sang aujourd'hui à Goma et dans la partie est de la RDC. De la même manière qu'ils ont signé, disent-ils, un deal pour éviter un bain de sang, aujourd'hui ils ont l'obligation de s'attendre. Félix a démontré, comme le disait Corneille ici, ça fait à trois reprises, il a changé de chef d'état-major, il a changé de conseiller, il a changé de premier ministre, il a changé de gouvernement. Si un coach peut changer de joueur à plus de trois reprises et qu'il ne remporte pas la victoire, le problème réside au niveau du coach et la responsabilité devrait être engagée. Enfin, nous devons, comme citoyens et toutes les intelligences congolaises, nous mobiliser sur les volets justice internationale. Ce que tous ces seigneurs de guerre sont en train de faire, ce qui vient de se passer à Goma sous les dos de Corneille Nanga, de Sultani Makenga, ce qu'ils ont fait à Kavumu, ils veulent à nouveau les rééditer. En 98, ils ont tué deux officiers congolais à Kavumu. Ils ont la garantie de l'impunité. Nous devons nous mobiliser partout où nous sommes pour que déjà la Cour pénale internationale a même brandi la menace contre Poutine, contre Netanyahou. Pourquoi lorsque Kagame doit tuer des millions de Congolais, la Cour pénale internationale doit se taire? Et ça, nous n'allons pas attendre ça ni de Corneille ni de Félix. Ils savent qu'est-ce qui les lie avec Kagame.
Elle a publié un communiqué hier demandant à toutes les personnes ayant des preuves sur les massacres de l'assistant dans le Kivu de pouvoir les envoyer à la CPI.
Les preuves, nous allons les déposer parce que c'est ce que l'armée rwandaise a fait.
Merci.
Tuer des militaires congolais qui ont tendu les mains au Kakatino.
Merci. Merci, Jean-Baptiste.
Que cela passe.
Casser quoi? Corneille Moulumba. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est vrai, vous avez critiqué la communauté internationale, hein, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, hein, pour soutenir les efforts des Congolais et même régionaux?
Non, vraiment, je n'attends rien de la communauté internationale. Pour moi, madame, ouvrons des centres de recrutement dans chaque province. Faisons appel à la jeunesse congolaise. Nous avons des gisements de cassiterite, de cobalt, de coltan, tout ça. Faisons appel à ceux qui sont intéressés par nos minerais, qui fabriquent des armes, pour que nous puissions troquer nos minerais contre des armes. Faisons former des commandos dans différents pays au besoin. En 6 mois, madame, nous pouvons avoir des milliers de commandos bien formés et militairement équipés. Nous pouvons avoir des parachutistes. Nous pouvons faire ça. Contrairement à ce que mon frère dit ici, je pense que nos pères de l'Église doivent s'occuper de faire arriver au ciel le maximum de Congolais. Politiquement, nous sommes pas, c'est pas ça. Parce que là, nous ne sommes pas des Églises. Là, on a affaire à des gens qui tuent. On a besoin d'opposer à ceux qui nous tuent notre capacité armée. Ce n'est pas un problème de négocier. Quant au Parlement, madame, je n'ai pas confiance dans ce Parlement pour quelle raison? Par rapport aux conditions dans lesquelles il a été constitué. Souvenez-vous, il n'y a pas eu pas une, pas deux, pas trois, mais des centaines de machines à voter dans toutes les provinces. Ça veut dire que vous avez dans ce Parlement, on se pose pas la question, qui a fourni ces machines? C'est ceux qui ont une livresse fourni ces machines qui contrôlent le Parlement. Donc on ne peut pas faire confiance. Le discours très modéré de président de l'Assemblée nationale, pour moi, il est démobilisant.
Merci. Maître Achille, votre conclusion.
Oui, madame. Après, moi, je pense que un grand joueur doit savoir jouer les deux pieds. Donc, les gauches et les droites. Pour moi, le pied gauche, c'est la diplomatie, et le pied droit, c'est l'armement. Notre gouvernement doit savoir tenir ses deux pieds, parce que les grands joueurs au monde utilisent les deux pieds. Voilà pourquoi je recommande d'abord au gouvernement de savoir que la situation actuelle, comme nous l'avons dit, beaucoup débattu, l'un de penser qu'on doit encore faire 6 mois. La situation est en train de se détériorer. Il faut des solutions urgentes. Les solutions urgentes vont aller dans la prise de conscience d'abord de nous, Congolais, et de voir comment amener les Congolais en train de se parler sans les étrangers. Si nous amenons les étrangers dans ce dialogue, on n'aura jamais de solution, puisque ce sont eux qui nous manipulent et qu'il faut que nous puissions être dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Comptons sur nous-mêmes, mettons d'abord nos efforts ensemble. Et les élus, il est important de quitter les théories, puisque la plupart des fois, ce sont des théories dans lesquelles nous sommes, on a besoin des actions concrètes, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce que les élus ont pris l'option de prendre 50%, même 20% de leurs démoulements pour qu'on puisse renforcer les situations sur le terrain?
Merci.
Et de trois, comme les évêques ils sont déjà engagés dans le dialogue, suivant d'abord les évêques, voilà là où ils vont s'amener la lourde charge que l'État leur a accordée, madame.
Merci Achille Kiapanga, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Freddy Bikumbi, Bertin Kassiama. Merci à Pierre Diassinois qui était à la mise en onde derrière les caméras de la Tonfolani, Hervé Voka et Clément Tumanga. Martin Sabujangwe a supervisé cette émission. Présentation et coordination, Kéline Kouté a resté branché sur la fréquence de la paix.